Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Quand on me pose cette question, moi je dis en général, ben ça va, la semaine a été chargée, c'était occupé, mais ça va. Et d'un côté, ma réponse, elle est souvent honnête, parce que on a tous des agendas qui sont remplis, on est d'accord? On est tous occupés, on a plein de préoccupations, on a des sollicitations de l'église, des amis, de la famille, on a des gens à voir, on a plein d'activités à faire. Et donc, notre semaine, elle est toujours chargée. De l'autre côté aussi, on dit que voilà, la semaine a été occupée et chargée parce que c'est vertueux de dire que notre semaine a été chargée. Imaginez-vous, vous demandez à un ami et vous lui demandez comment ça, vous lui demandez comment sa semaine a été et qu'il vous répond, ben en fait ma semaine, ben j'ai rien fait, j'avais tellement de temps à tuer que j'ai rien fait. Personne ne dit ça, on est d'accord. Et du coup, en fait, on aime rester vague et évasif, quand on nous demande comment notre semaine a été. Tout en montrant de l'autre côté ben, que ça a été chargé, hein, parce qu'on est occupé comme personne. Parce que le travail a une valeur importante aux yeux de notre société aujourd'hui. Travailler et être occupé, ça sera toujours mieux valorisé et considéré que de ne rien faire, que de ne pas avoir d'activité, que de se détendre, que de se reposer. Et la Bible dit beaucoup de choses par rapport à ça. Et donc aujourd'hui, on va parler du Shabbat, du repos. Parce que pour moi, c'est une habitude de la grâce, c'est une habitude spirituelle. C'est quelque chose qu'il faut mettre en pratique en tant que disciple de Christ. Et pour moi, je pense que le sabbat, c'est certainement la pratique la plus compliquée à pratiquer, à mettre en place, à intégrer dans notre quotidien. On a tous une relation différente vis-à-vis du travail. Je ne sais pas c'est quoi votre situation. Peut-être que parmi vous, il y en a qui n'ont pas de travail, mais qui aimeraient travailler. Il y en a d'autres, ben, ils ont du mal avec leur travail, ils n'aiment pas ce qu'ils font, ils ont envie de changer, mais ce n'est pas si facile que ça. Et pour d'autres, ben, ils adorent leur travail. Ils s'éclatent, ils aiment aller au travail tous les jours. Donc, on a plus ou moins des relations différentes vis-à-vis du travail. Mais pour beaucoup, et pour la majorité, j'ai envie de dire, le problème, c'est qu'on travaille trop et qu'on néglige le sabbat. Le sabbat, c'est l'habitude du repos. Lisez avec moi les versets 1 et 2. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent, « Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat ?» Alors ici, Jésus et ses disciples sont condamnés par les pharisiens, par les docteurs de la loi, pour avoir enfreint le sabbat. Qu'est-ce qu'ils font là, les disciples ? En fait, ils sont en train de moissonner des épis. Et moissonner des épis à l'époque, le manuel des lois religieuses juives, c'était interdit de faire ça. Et donc, on peut penser directement, justement, à l'aspect légaliste des pharisiens. Et même si c'est le cas, je vous rappelle que le sabbat, c'est un commandement à respecter. C'est écrit dans les 10 commandements. Même aujourd'hui, au 21e siècle. Respecter des règles, ça veut pas dire qu'on est légaliste. Être légaliste, c'est penser qu'appliquer des lois de Dieu peut nous sauver. C'est ça la différence. Appliquer des lois de Dieu pour avoir son approbation. Et nous savons qu'en tant que chrétien, on est sauvé par la foi et par la grâce seule. Et donc, observer le sabbat, ou comme les autres commandements de la loi, c'est qu'une simple réponse à cette grâce qui nous est accordée lorsque l'on place notre foi en lui. En tant que parisien, parisienne, on travaille énormément. Et donc, notre relation vis-à-vis du travail peut être tellement faussée qu'on pense naïvement trouver du repos en simplement prenant des vacances. On a de la chance d'avoir 5, 6, 7 semaines, peut-être vous en avez 9 pour les banquiers, je ne sais pas. Mais on pense qu'on a simplement besoin de prendre des vacances pour se reposer en cessant de travailler. Mais le fait est qu'en France, il y a un poids qui est mis sur le travail. Dans le sens où, par exemple, on observe quelques tendances. C'est quoi ces tendances ? Premièrement, le sentiment d'insécurité d'emploi. Il n'a jamais été aussi fort en France, et notamment chez les jeunes. Lorsqu'on signe un CDI, c'est un avenir, c'est des projets futurs possibles. Et du coup, en fait, le CDI, c'est pour beaucoup, c'est un graal. C'est trop bien quoi, de signer un CDI. La deuxième tendance, c'est que pour trouver cet emploi, qu'est-ce qu'il faut faire ? Faire de bonnes études, avoir la bonne école, avoir la bonne expérience dans la bonne entreprise, acquérir toutes ces choses-là. Et une fois qu'on est embauché, qu'est-ce qu'il faut faire ? Bon, faut être effectif, faut être bon, faut travailler beaucoup. Parce que si c'est pas le cas, ben on peut nous remplacer facilement. Et même les gens qui ont des emplois entre guillemets modestes, ils travaillent des heures interminables pour rejoindre les deux bouts financièrement. Et même lorsque... Le tendance est aussi que la technologie fait qu'on est constamment connecté à notre travail. On peut travailler de n'importe où, n'importe quand, n'importe quelle heure. On reçoit les emails sur notre smartphone. Et c'est très compliqué de dire, ben, en fait, je vais pas lire mon email professionnel. Et donc, on vit dans une société où notre profession, notre métier, notre emploi nous définit. Et donc, si on signe ce CDI, ben, on se sent valorisé. On dit, ben, finalement, en fait, ben, ça y est, j'ai accédé à cette chose. Et donc, le travail nous définit. Enfin, définit notre identité. Par exemple, lorsque vous allez à une soirée, à un anniversaire, et que vous faites des rencontres de personnes que vous ne connaissez pas, on va vous poser deux questions. Comment tu t'appelles et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Automatiquement. C'est tout le temps le cas. C'est systématique parce que notre société dit que c'est notre travail qui nous définit qui on est, selon ce que l'on fait. Et donc, notre rapport face au travail démontre qu'on a un réel besoin de repos, physiquement, émotionnellement, spirituellement. On a tous besoin. On est tellement occupé tous les jours, toute la semaine, que sincèrement, dormir 8 heures par nuit, c'est un luxe aujourd'hui. Moi, je ne dors pas 8 heures par nuit. D'un côté, il y a le travail qui nécessite un repos physique. Mais de l'autre côté, il y a quelque chose de plus profond en nous. Il y a une agitation intérieure. Ce que un philosophe allemand, Martin Heidegger, qui parle, il dit qu'en fait, il y a vraiment quelque chose qui se passe en nous. On est constamment en travailler à l'intérieur de nous, dans notre esprit. On a constamment besoin de prouver. Prouver à soi-même, prouver aux autres, prouver notre valeur, prouver à Dieu, et qui rend en fait ce travail de prouver notre travail encore plus difficile, plus compliqué, plus fatigant. Et ce travail de prouver à soi-même et aux autres, c'est jamais suffisant. Jamais. Les vacances, ça peut aider. Temporairement. Ça fait du bien de partir à la mer, de faire un petit week-end. Mais le truc, c'est qu'on a besoin d'un repos plus profond, qui régénère notre être, notre âme et notre personne. Un repos intérieur spirituel. Sinon, c'est la fatigue chronique. Et même si le sabbat, pour beaucoup, c'est une pratique ancestrale, c'est que pour les juifs, le sabbat, c'est vraiment une réponse profonde à une problématique qui est humaine. La question, c'est de savoir où trouver ce repos. Versets 3 et 4. Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce qu'a fait David lorsqu'il eut faim, lui et ses compagnons ? Il est entré dans la maison de Dieu et a pris le pain consacré. On a mangé et on a donné même à ses compagnons, bien qu'il ne soit permis qu'aux prêtres de les manger. » En fait, ici, Jésus reprend un incident de 1 Samuel. Et dans cette histoire, c'est David qui fuit Saül, qui est après sa vie. Et donc, David trouve refuge auprès du prêtre Achimélec. David, il a rien sur lui. Il a faim. Et il demande à manger. Et le truc, c'est que le prêtre n'a pas de pain ordinaire. Il a que des pains consacré. Et le pain consacré était consacré exclusivement aux prêtres, justement. Et la seule condition pour que Achimélec donne les pains consacrés, c'est que David et ses compagnons soient rituellement purs. Ce fut le cas. Et donc, ils mangent le pain consacré, alors qu'en fait, ils n'avaient pas le droit de l'en manger. Et c'est ce que note ici Jésus. Il leur dit que c'était permis qu'aux prêtres de le manger. Et en fait, en faisant cela, Jésus est en train de soulever le fait que David, ici, n'est pas condamné pour son acte. Et donc, Jésus nous invite à réfléchir sur les implications de cela. Ici, les pharisiens condamnent Jésus alors qu'il devrait également condamner David, parce que lui-même a enfreint la loi. Mais ne le font pas. Et donc, en faisant cela, Jésus est en train de révéler l'hypocrisie des pharisiens. Comme David, qui lui était en fuite et qui avait faim, ici, les disciples de Jésus n'enfreignent pas réellement la loi. Pourquoi ? Parce que le sabbat a été fait pour l'homme. C'est ce que nous dit Marc. Et non contre l'homme. Le sabbat, ça a été fait pour le bien de l'homme. Alors pourquoi interdire un homme de se nourrir ? Verset 5. Le Fils de l'homme est Seigneur du sabbat. Lorsque Jésus dit ça, il accomplit la loi. Pourquoi ? Parce que la loi a été faite pour que nous nous sentions bien. Et ça demande que la loi pointe vers Christ. Si vous êtes fatigué, si vous avez besoin de repos, vous savez pertinemment en tant que chrétien que vous devez aller vers Jésus. J'ai pas besoin de vous dire ça. Vous savez très bien que c'est vers Jésus que vous devez aller. Et si vous allez vers Jésus et que vous ne trouvez pas ce repos, c'est que vous ne savez pas ce que vous avez en Jésus. Ou que vous n'avez vraiment pas saisi la signification de ce que ça veut dire que Jésus soit le Seigneur du sabbat. Et si c'est le cas, laissez-moi vous expliquer aujourd'hui ce que ça signifie que Jésus soit le Seigneur du sabbat. Dans Genèse, lors de la création, c'est là que l'Éternel institue le sabbat. Laissez-moi vous lire Genèse 2, 1 à 3. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le septième jour, Dieu mit un terme à son travail de création et se reposa de toute son activité le septième jour. Dieu bénit le septième jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité et de tout ce qu'il avait créé. Pourquoi Dieu a institué le sabbat? Pourquoi il s'est reposé? Est-ce qu'il était fatigué? J'en doute. Il s'est reposé parce qu'il avait accompli son activité créationnelle. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Genèse 1, 31. Et donc, à chaque fois que Dieu est à l'œuvre, il fait un constat de ce qu'il a créé et voit que c'est bon. À chaque fois, à chaque jour. Et au sixième jour, après avoir créé l'homme, il constata que c'était très bon. Et c'est ça, se reposer. C'est ça, le sabbat. Dieu a créé, il a regardé, il a constaté et il a apprécié son travail. Et c'est une chose qu'on ne fait jamais. Parce qu'une fois qu'on accomplit notre tâche, notre devoir, notre travail, on passe à la suivante. On ne prend pas le temps de regarder, de constater et d'apprécier notre travail. On a du mal aujourd'hui à prendre le temps de refléter ce que l'on fait, de faire une pause parce qu'on est constamment en activité. Vous savez, Shabbat, ça veut dire quoi en hébreu? Ça veut dire stop. Stop. Et c'est ça l'essence même du sabbat. C'est de prendre le temps. C'est d'appuyer sur le bouton stop. Pause. Et pour un chrétien, le sabbat signifie que l'on peut cesser toute activité, regarder son travail de la même manière que Dieu regarde le sien, de regarder sa vie de la manière que Dieu regarde la sienne. Écoutez Hébreux 4, ce qu'il dit dans Hébreux 4, versets 9 à 10. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Et ces versets nous disent qu'à travers Christ, nous pouvons regarder le travail qu'on a accompli. Regarder notre vie, notre personne, et dire que c'est bon d'éprouver une certaine satisfaction. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a rien d'autre qui doit être fait et que Christ a tout accompli en nous lorsque l'on place notre foi en lui. Aujourd'hui, on est dimanche. Demain, c'est lundi, le jour que tout le monde aime. Peut-être que demain, je ne sais pas, imaginons que demain, vous avez un projet à rendre. Mais tout le week-end, vous êtes reposé, vous êtes dit, allez, j'aurai pas le temps de tout boucler, donc je vais quand même reposer, ça ne sert à rien. Mais on est bientôt samedi soir, là. Dimanche soir, pardon. On est bientôt dimanche soir et vous commencez à penser au dossier que vous devez rendre demain. Vous stressez un petit peu. Imaginez-vous que demain matin, en arrivant au bureau, votre projet, votre dossier est fini, finalisé, bouclé. Et votre chef vous félicite. En fait, disons que c'est un collègue généreux qui a sacrifié son week-end pour finir votre travail à votre place. Et mieux que vous n'aurez pu le faire. Bien sûr, ça n'arrive jamais, parce que c'est le monde du travail, parce que c'est notre société. Mais c'est ce que Dieu fait pour nous. Lui, il accomplit les choses pour nous. Et le sabbat a été conçu pour nous transmettre l'histoire de notre humanité, dans le sens où, parce que Dieu s'est reposé, nous, nous reposons afin d'honorer l'image divine qui est en nous lorsqu'il nous a créés. Et lorsque l'on fait ça, c'est aussi pour nous rappeler qu'on est bien plus qu'une force de travail, comme le pensait Karl Marx. Et le sabbat, ça s'adresse à bien plus que le travail. À ce qui nous travaille intérieurement. Le sabbat, c'est une réponse à ce qui nous agite dans notre cœur, dans notre tête, dans notre personne. Aux choses que l'on veut prouver au monde ou à soi-même. Le problème, ce n'est pas la présence du travail dans le monde. Ce n'est pas ça. Travailler, c'est normal. C'est une bonne chose de travailler. Le problème, c'est l'absence d'un repos intérieur profond pour notre personne, pour notre être, pour notre âme. Et donc, on a parlé de prouver dans le monde du travail qu'on est quelqu'un d'important pour montrer qu'on est valeureux, qu'on est bosseur, qu'on est compétent. Et ce qui est dommage, c'est qu'on le fait trop souvent à travers le travail. On aime montrer aux autres qu'on est bon, ben, à travers le travail. Et chaque individu le fait. Soit pour les gens religieux, ils essayent de faire des bonnes choses pour plaire à Dieu, ou les gens non religieux, ben, ils font pareil, sauf que eux, ils le font pour avoir une augmentation de salaire, pour avoir une promotion, pour être bien vu par le chef. Mais constamment prouver, ça sert absolument à rien parce que ça peut être satisfaisant pendant le temps d'un projet. Mais quand sera-t-il pour demain? Parce qu'il y a toujours un travail à faire le lendemain. Et Christ est le seul en qui on peut avoir ce repos. Pourquoi? Parce que la satisfaction du repos n'est obtenue par lui, parce que lui, une fois de plus, a absolument tout, mais tout accompli. C'est lui qui dit dans Matthieu 11, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Jésus sait, il sait que chaque individu essaie de trouver son identité à travers quelque chose, et notamment à travers le travail. Et donc, si vous mettez Jésus au centre de votre identité, vous le servez. Et donc, vous aurez ce repos total et complet dont votre âme a besoin. Versets 6 à 10. Un autre jour de sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Là se trouvait un homme dont la main droite était paralysée. Les spécialistes de la loi et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat, afin d'avoir un motif pour l'accuser. Mais Jésus connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi, tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors il promena son regard sur eux tous et dit à l'homme, « Tends ta main. » Il le fit et sa main fut guérie. Donc, selon le livre des lois religieuses juives, il était autorisé de prodiguer des soins si une personne était en danger de mort immédiate. Mais ce que fait Jésus ici n'était pas permis. Donc, est-ce qu'il est en train d'enfreindre la loi ou pas? Est-ce qu'il est en train de casser le sabbat ou pas? Pas vraiment. Pourquoi? Parce que Jésus demande s'il est permis de faire du bien ou du mal, de sauver ou de tuer pendant le sabbat. Et donc, en guérissant la main de l'homme, il fait exactement ce pourquoi le sabbat a été instauré, c'est-à-dire restauration, réhabilitation rédemption, guérison. Parce que seul Jésus restaure, sauve, réhabilite, rachète. Seul en Jésus, vous pouvez regarder votre vie, votre travail, votre personne, et vous dire, c'est très bon, selon lui. Parce que c'est ce que Dieu a fait lorsqu'il a créé Adam et Ève. Parce que Jésus nous a restaurés et réhabilités et rachetés. Si Dieu lui-même pratique le sabbat, alors croyez-moi, c'est une bonne chose pour nous, ces créatures, de pratiquer le sabbat. Mais les pharisiens ici, comme d'habitude, ils n'avaient pas saisi le sens du commandement. Verset 11. Ils furent remplis de fureur et se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Ils étaient remplis de fureur parce que Jésus a fait du bien à une personne. Et qu'est-ce qu'ils décident de faire ? Quelques chapitres plus tard, ils décident de clouer Jésus. Vous connaissez tous plus ou moins l'histoire. Et lorsque Jésus est cloué à la croix, il y a une énorme ironie pour les pharisiens. Ils en font le Seigneur du sabbat. En quoi ? Parce que à la croix, Jésus expérimente une agitation intérieure et totale, cosmique, spirituelle. Et au moment où il rend son esprit, vous vous souvenez de ce qu'il dit ? Lorsqu'il rend son esprit, il dit « Tout est accompli ». Qu'est-ce qui accomplit ? Qu'est-ce qu'il accomplit Jésus à la croix lorsqu'il rend son âme ? Ben, il accomplit tout ce qui est nécessaire pour le repos des âmes. Il accomplit le salut. Il accomplit tout ce qui est nécessaire pour les perfectionnistes du travail, qui n'ont pas besoin de faire... qui n'ont pas besoin de trouver la perfection parce qu'ils sont insatisfaits par leur travail. Il accomplit tout ce qui est nécessaire pour toutes les personnes qui ont une mauvaise estime de soi. Il accomplit le salut et le repos des âmes. Jésus est venu vivre une vie que nous aurions dû vivre. Il a subi une mort que nous aurions dû subir. Pour que, lorsque Dieu te regarde, toi, moi, il puisse constater que ce que Jésus a fait est très bon. Et la seule condition, c'est que vous acceptiez Jésus. C'est la seule condition. Tout ce que vous avez à faire, ça a déjà été accompli à la croix. Et la seule paire Dieu que vous avez besoin, c'est celle de Dieu. C'est celle de Dieu. Être chrétien, c'est pas se reposer sur son travail, sur son propre travail. Être chrétien, c'est se reposer sur le travail de Christ. Et son travail, c'est l'œuvre, le chef-d'œuvre qu'il accomplit à la croix. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté cette petite histoire. Enfin, c'est dans le film Chariot de feu. Je sais pas, je me souviens pas. J'adore ce film. J'adore. Ça traite justement du sujet du sabbat. Il y a un sprinter qui s'entraîne dur pour gagner la finale olympique du 100 mètres. Et on lui demande pourquoi il s'entraîne si dur, pourquoi il travaille si dur. Et sa réponse est qu'il dit, je n'ai que 10 secondes pour justifier toute mon existence. Il n'a que 10 secondes. Il doit se prouver à lui-même et au reste du monde qu'il est le plus grand athlète, le plus grand sprinter. Et dans le film, il y a un autre sprinter, qui s'appelle Eric Liddell, qui c'est un chrétien dévoué, qualifié pour la finale du 100 mètres. C'est le favori de la finale olympique. Il est favori de l'épreuve, mais il ne courra jamais la finale. Pourquoi ? Parce que la finale a lieu un jour de dimanche, jour de sabbat. Et il ne court pas la course parce qu'il agit par légalisme, mais parce qu'il est, son identité était tellement sûre et ancrée en Christ qu'il n'avait pas besoin de prouver au monde qu'il était le plus grand sprinteur de son époque. Même si ça devait lui en coûter l'or olympique. Il n'avait pas besoin de faire ça. Et beaucoup de chrétiens pensent que par la venue de Jésus, on n'a plus besoin de suivre aucune règle de l'Ancien Testament. Mais le sabbat nous a été donné pour nous restaurer, pour nous reposer, pour nous faire du bien. Je vais finir par une histoire, enfin, c'est pas une histoire, mais un épisode de l'Ancien Testament, pour que vous preniez conscience de l'importance du sabbat. Dans Deutéronome 15, c'est là que Dieu rappelle à son peuple, Israël, de libérer les esclaves. C'est là qu'il leur rappelle qu'il les a libérés de leurs conditions d'esclavage lorsqu'ils étaient en Égypte. Et donc, il leur commande d'observer une année sabbatique. Pourquoi Dieu donnerait-il cet ordre alors qu'il a déjà instauré le sabbat? Manifestement, à l'époque, lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte, ils n'avaient pas de jours de congé. C'était des esclaves. Et si vous ne vous reposez pas, ça veut dire que vous êtes esclaves. Si vous ne vous reposez pas, c'est que vous êtes esclaves. Et pensez à ce que ça veut dire. On est tous occupés. On a tous des obligations. On a tous des choses à faire. Et si vous avez autant de mal à dire non à certaines choses, c'est que vous êtes esclave. Esclave de quoi? Je ne sais pas. De votre propre insécurité, de vos besoins. Vous êtes esclave de devoir prouver des choses. Vous êtes esclave des attentes placées en vous. Vous êtes esclave de votre patron, de votre boîte. Vous êtes esclave si vous ne prenez pas de repos. Parce que le sabbat, c'est un acte de libération. Ce n'est pas votre travail qui vous définit, c'est Christ qui vous le fait. Et dites-vous que ce n'est pas le nombre de clients, ce n'est pas le chiffre d'affaires que je dois faire, mon salaire, mes compétences au boulot qui nous définissent, ce n'est pas ces choses-là. Et donc, dites-vous que ce n'est pas ces choses-là qui nous définissent, donc ce week-end, aujourd'hui, je vais prendre du repos, je vais prendre du temps pour moi, et pour le Seigneur. Là, vous n'êtes pas esclave. Là, vous êtes identifié à Christ. Beaucoup attendent les vacances pour se reposer. Les vacances, c'est bien. Mais le problème des vacances, c'est que ça, c'est juste pour les symptômes. Ce n'est pas ce que l'âme réclame. Ce que notre être intérieur réclame. Un repos hebdomadaire forcé aura un impact certain. Si vous prenez le temps de vous reposer, ça aura des conséquences. Peut-être que vous serez moins au travail, moins présent. Peut-être que votre boss pensera que vous n'êtes pas autant impliqué qu'avant. Peut-être que vous prendrez du retard par rapport à vos collègues. Peut-être que vous serez derrière dans votre carrière. Peut-être que vous n'aurez pas la promotion que vous voulez. C'est un risque à prendre. Et peut-être que Dieu permettra que vous puissiez avancer dans votre carrière. Peut-être qu'il ne le permettra pas. C'est selon sa volonté. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que vous voulez être esclave? Et donc, c'est pour ça que c'est vital, crucial. C'est une question de vie, de mort, de s'enraciner en Jésus, qui, lui, a vécu cette agitation intérieure pour que nous puissions avoir ce repos éternel. C'est pour ça qu'il est allé à la croix. C'est pas pour rien. On n'est pas des outils de travail, mais on est des êtres humains créés à l'image de Dieu. Et vous n'avez plus rien à prouver à qui que ce soit en Christ. En Dieu, en Christ, en Jésus, Dieu vous regarde et il dit, il constate que c'est très bon. Par Christ. Veuillez prier avec moi. Seigneur, merci pour ce texte de Luc. Merci pour cet enseignement que Jésus fait aux pharisiens et surtout qu'il nous donne, qu'il nous a transmis. Parce qu'il nous rappelle que voilà, tu es venu pour nous donner ce repos dont on a besoin, ce salut des âmes que tu pourvois à la croix pour nous, Seigneur. Et je te demande que tu puisses aider chaque personne dans cette salle à voir que le repos, c'est vraiment un commandement que tu nous as donné afin que l'on puisse nous ressourcer physiquement, mais pour que l'on puisse comprendre de l'impact que ça a dans notre vie, de ce que ça signifie de vraiment prendre ce jour de repos en toi. Et aide les personnes qui sont qui ont du mal à lâcher prise, que tu puisses les aider à prendre conscience de ces choses-là, Seigneur. Et qu'ils puissent vraiment prendre du temps pour eux-mêmes et passer du temps avec toi. Pour qu'ils puissent faire la part des choses et vraiment trouver ce repos en toi, que ça puisse leur faire du bien, les faire grandir, et qu'ils puissent vraiment être édifiés en toi, Seigneur. Et je te prie aussi pour les personnes qui ont du mal aussi au travail, parce que c'est pas toujours évident, c'est compliqué, que tu puisses les aider à aller au travail tous les jours, à se lever le matin, à être motivés, être des témoins, être une lumière là où ils sont. Tu les as placés pour une raison, Seigneur, et qu'ils puissent vraiment briller pour toi. Et je te demande toutes ces choses pour que tu puisses nous aider à être conquérants en toi. On est tes fils, on est tes filles, on est tes enfants. Et tu nous as donné cette identité qui est magnifique en toi, Seigneur. Et merci vraiment pour tout ce que tu accomplis. Au nom de Jésus. Amen.